Le journal d'Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Un mois après son entrée en vigueur, la fin de la gratuité des tests pour les non-vaccinés pose question face à la cinquième vague qui s'annonce. Le suivi de l'épidémie en est-il affecté ces derniers jours ? Reportage à suivre dès le début de ce journal. Simple coïncidence ou conséquence de la pandémie, il y a moins de fumeurs ces dernières années dans le monde. L'OMS publie des chiffres encourageants, mais elle s'inquiète aussi, vous l'entendrez, du comportement des industriels du tabac. Au sommaire également, les maires reçus ce soir à l'Élysée, les finances de l'autorité palestinienne dans le rouge, réunion des donateurs internationaux aujourd'hui, et une plateforme de films 100% français aux États-Unis.
Et je vous rappelle que Léa Salamé, dans 20 minutes, reçoit aujourd'hui la défenseure des droits, Claire Hédon. Elle publie un rapport sur la santé mentale des enfants.
France Inter.
Plus de 20 000 nouveaux cas de Covid, Alexis, recensés hier en France.
Ouais, on n'avait pas connu un tel chiffre depuis la fin août. 20 000 cas détectés et combien passés sous les radars? La question se pose depuis la fin de la gratuité des tests, il y a un mois maintenant, pour les non-vaccinés, sans ordonnance. Et avec le rebond épidémique, elle devient évidemment centrale, cette question, pour le suivi du virus au jour le jour. Alors certains renoncent-ils vraiment à se faire tester? Avec quel impact? Martin Delacoux.
Dans la file d'attente qui s'étend sur le trottoir, la quasi-totalité des patients est vaccinée, mais pas Bastien, 25 ans, qui sort la larme à l'œil et le portefeuille allégé de 44 euros. Il réalise des tests environ toutes les deux semaines avant de partir en déplacement professionnel.
C'est une charge au même titre que ceux qui fument dépensent 50-60 euros par semaine. Et ben moi, ça va être 20 euros une fois toutes les 2-3 semaines. Je ne fume pas, donc c'est mon coup.
Si Bastien a mis la main à la poche, d'autres non-vaccinés pourraient choisir de ne pas le faire, même avec des symptômes. S'ils veulent se faire tester gratuitement, il faut désormais passer d'abord par son médecin traitant, ce qui retarde la date du test. Mais Renaud Piaroux se veut rassurant sur le suivi de l'épidémie. Il est chef de service à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris.
On a plein d'indicateurs. On a à la fois les hospitalisations, les passages en réanimation. On a aussi les appels SOS médecins, les appels au SAMU, les passages aux urgences. Donc les indicateurs ne manquent pas. Et de toute façon, tous montrent que ça remonte.
Là où ce retard peut vraiment être problématique, c'est à l'échelle individuelle. Si une personne non vaccinée est véritablement atteinte du Covid, elle mettra plus de temps à le savoir, donc à être prise en charge et à s'isoler.
Début de la cinquième vague un peu partout en Europe et retour des restrictions par endroit. Dernière annonce en Irlande, par exemple. Là-bas, extension du pass sanitaire au cinéma et au théâtre dès demain et couvre-feu à minuit pour les bars et les restaurants. Le Covid qui a tué au moins 5 millions de personnes dans le monde depuis 20 mois, bilan très lourd. Mais cela reste moins que le tabac, 8 millions de morts prématurées chaque année à cause de la cigarette. Malgré tout, sur ce front-là, le pire est peut-être derrière nous. Le nombre de fumeurs diminue lentement, mais sûrement. L'OMS vient de faire ses calculs. 1,3 milliard de terriens fument, selon l'Organisation mondiale de la santé. C'est 20 millions de moins qu'il y a deux ans. Jérémy Lanche.
L'OMS n'est plus tellement habituée à annoncer de bonnes nouvelles. Alors l'agence ne boude pas son plaisir en affirmant que si la tendance se confirme, les fumeurs ne devraient plus représenter qu'un cinquième des plus de 15 ans en 2025. Ils étaient encore un tiers au début des années 2000. Autre bonne nouvelle, le nombre de pays sur le point d'atteindre les objectifs de réduction de la consommation de tabac fixés par l'OMS, ils ont quasiment doublé en deux ans seulement. Difficile de savoir si la pandémie a joué un rôle, mais ce qui est sûr pour le responsable de la promotion de la santé à l'OMS, Rudiger Krek, c'est que les industriels du tabac, eux, ont continué de jouer leur propre partition.
Ils essaient de faire croire qu'ils font partie de la solution. Ils donnent par exemple des masques avec le logo Philip Morris imprimé dessus. Ils donnent aussi des respirateurs. Les industriels essaient même de développer un vaccin à partir de feuilles de tabac. Tout ça pour faire croire qu'ils se sentent concernés.
L'OMS s'inquiète particulièrement des efforts déployés par les industriels pour attirer les jeunes avec les cigarettes électroniques et autres produits à base de tabac chauffé. Autre point noir, l'Europe, où les femmes continuent de fumer nettement plus qu'ailleurs et où leur consommation diminue également plus lentement. Genève Girmilange, France Inter.
Les Gilets jaunes fêtent aujourd'hui leur 3e anniversaire et même si la mobilisation s'est progressivement essoufflée, un mouvement similaire peut reprendre à tout moment selon 8 Françaises interrogées sur 10. Résultat de l'enquête Ipsos pour France Inter ce matin. Le détail à retrouver sur franceinter.fr dès maintenant. Et justement, depuis 3 ans, face à la colère sociale, les maires sont devenus des relais de terrain incontournables pour l'exécutif. Ils le sont peut-être encore plus à l'approche de la présidentielle. Milliers d'entre eux seront reçus ce soir à l'Élysée, dans la foulée de l'élection du nouveau président de l'AMF, l'Association des maires de France. On connaîtra son nom cet après-midi, le LR David Lisnard de Cannes ou l'UDI Philippe Laurent de Sceaux, le deuxième étant plus Macron-compatible que le premier. Les élus locaux et le chef de l'État, c'est une histoire complexe, Maxence Lambrecq.
2017, entrée en mêlée compliquée.
Les sifflets ne m'ont jamais beaucoup étourdi.
La suppression à venir de la taxe d'habitation a chauffé la salle.
Au niveau budgétaire, ce sont des années difficiles.
Et avec la taxe d'habitation, bon, on a comme des inquiétudes, hein, même si aujourd'hui on nous dit que tout sera maintenu, jusque quand et ni comment.
La compensation jusqu'à quand, s'interrogent ces élus du Puy-de-Dôme et d'Alsace.
Merci pour vos colères.
Colère liée aussi à la fin du cumul des mandats avec des députés invisibles. Pour le maire de Saint-Chamond, Hervé Reynaud.
On avait besoin de relais. Nos parlementaires sont souvent très absents du territoire. Nous, dans le département de la Loire, ça a été assez manifeste. Le président de la République n'est pas aidé à ce niveau-là.
Trop loin du terrain aussi pour le maire de Pont-l'Abbé.
Quand on l'a reçu sur notre territoire, le président de la République, Ogil Vinec, je lui ai proposé de venir en stage d'une semaine dans une mairie « Vie ma vie » de maire. J'attends toujours.
Mais Stéphane Ledouarel remercie d'avoir sorti Édouard Philippe.
Jean Castex a sans doute un côté plus terre-à-terre et de temps en temps, je pense qu'il pondère certaines décisions parce qu'il sait très bien qu'au niveau des collectivités locales, ça va être inapplicable.
Tous le répètent, ce sont les gilets jaunes et le Covid qui ont changé le regard d'Emmanuel Macron.
Il s'est rendu compte quand même que les maires, ils n'étaient pas là pour le décor, on va dire.
Pascal Terrasson, maire d'Andoufiel.
On fait du boulot et du vrai boulot, on a vraiment les mains dans le cambouis et les pieds dans la terre.
Grand débat, tests, masques, vaccins, l'Élysée promet demain un hommage à la hauteur de leurs engagements.
Il avait qualifié les mineurs étrangers isolés de voleurs, violeurs et assassins. Éric Zemmour est jugé ce matin à Paris pour complicité de provocation à la haine et injures raciales, des propos tenus l'an dernier sur CNews. Après François Hollande, la semaine dernière, c'est au tour de son ministre de l'Intérieur en 2015 de témoigner au procès du 13 novembre. Bernard Cazeneuve attendu cet après-midi à la barre, tout comme l'ancien procureur de la République de Paris, François Molins. François Molins, qui était à l'époque le visage de l'antiterrorisme, il vient livrer son témoignage à la demande des parties civiles, Charlotte Piret.
S'il est devenu un habitué des conférences de presse post-attentat, c'est en revanche la première fois que François Molins vient témoigner devant une cour d'assises spécialement composée. Et l'ancien procureur de la République de Paris y est attendu à plusieurs titres pour témoigner de sa soirée du 13 novembre, lui qui s'est rapidement rendu sur les terrasses visées. En le voyant arriver, un policier ôte d'ailleurs son gilet pare-balles pour lui enfiler. Puis François Molins se rend au Bataclan et y passe une bonne partie de la nuit. Il commence à y organiser la cellule du parquet de Paris qui sera mobilisée les jours et nuits suivants pour démarrer l'enquête au plus vite. Une enquête sur laquelle de nombreuses questions sont attendues à l'audience, sur les moyens mis en œuvre, la coordination avec les autres parquets européen, parquet fédéral belge en tête du fait du nombre de ressortissants belges impliqués dans ces attentats. Mais il y a aussi l'avant 13 novembre sur lesquels les avocats de partie civile souhaitent l'interroger. A-t-on trop facilement laissé partir des aspirants djihadistes en Syrie? Quelle était la politique pénale du parquet à l'époque? Après Bernard Cazeneuve attendu sur la responsabilité de l'État, François Molins aura ainsi à s'expliquer sur celle éventuelle de l'institution judiciaire.
Charlotte Piret au procès du 13 novembre.
À l'étranger, 7h38, l'autorité palestinienne est au bord du gouffre financier.
Plus d'un milliard d'euros de déficit pour cette structure gouvernementale qui emploie des fonctionnaires et aide des milliers de familles. On en parle aujourd'hui à Oslo où se tient la conférence des donateurs pour la Palestine. Le soutien international s'est effondré ces dernières années. Alors face au risque de déstabilisation dans la région, même Israël appelle les donateurs à l'aide, Frédéric Mettezo.
122 millions d'euros entre janvier et septembre 2019, moins de 29 millions cette année. L'effondrement de l'aide internationale menace d'emporter l'autorité palestinienne. Le premier ministre palestinien, Mohamed Ouachtaïeh, sera présent à Oslo aujourd'hui.
Nous subissons encore les conséquences des coups de téléphone de l'ancienne administration américaine qui demandait à certains donateurs de ne pas aider les Palestiniens.
Sous Trump, les États-Unis et leurs alliés arabes ont réduit drastiquement leur aide aux Palestiniens. L'Europe a aussi suspendu une partie de ses crédits pour obtenir la tenue d'élections en Palestine, en vain. Et Israël, qui ne remplit pas ses obligations financières, demande à la communauté internationale de sortir le carnet de chèques. Mohamed Ejtaï.
C'est vraiment malheureux. Je n'aime pas voir la Palestine dépendre de l'aide internationale. Mais toute cette aide internationale est liée au fait que nous ne sommes pas indépendants.
Les Palestiniens n'ont pas de souveraineté économique. Ils utilisent la monnaie israélienne. Leurs transactions financières et commerciales et donc leurs taxes passent par Israël. Mais des ONG et des diplomates étrangers expliquent aussi que la corruption et l'autoritarisme en Palestine ne rassurent pas les donateurs potentiels. Jérusalem, Frédéric Mettez. France Inter.
Au Chili, le président échappe finalement à la destitution. Le Sénat chilien n'a pas approuvé cette nuit le lancement d'une procédure contre Sébastien Piñera, soupçonné de conflit d'intérêts depuis les révélations des Pandora Papers.
Et c'est un peu le Netflix du cinéma français en Amérique du Nord.
Voici l'histoire d'un expatrié vivant en Californie et qui désespérait de ne pas pouvoir regarder des films français sur les plateformes de vidéo à la demande. Alors comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, Clément Monet a créé sa propre plateforme 100% bleu blanc rouge, une centaine de films, tous en version originale sous-titrée. Il vise le marché des expatriés, mais aussi des francophiles aux États-Unis et au Canada. Ça s'appelle Cinescence, son fondateur nous explique.
On y trouve tout ce qui fait la richesse du cinéma français. Beaucoup de films dialogués par Audiard avec Gabin. Il y a beaucoup de chefs-d'œuvre de Claude Sauté, comme Max et les Ferrailleurs, Nelly et Monsieur Arnaud, César et Rosalie. Et on trouve aussi des films récents. Il y a le dernier, Cédric Lapiche, Deux mois.
Et vous ne craignez pas que le marché soit saturé par toutes ces plateformes ?
Il n'est pas saturé sur ce segment-là. Il y a des millions et des centaines de millions de francophones, de francophiles à l'étranger qui n'ont pas de chemin d'accès au cinéma français. Et donc c'est pour ça qu'on a créé Cinescence.
Clément Monet avec Amélie Perrier pour l'abonnement mensuel à Cinescence. Il faut compter 7 dollars américains, c'est toujours moins que Netflix.
Alexis Morel, merci. L'édito politique arrive.